tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Dominique.
Salut à tous.
Et pour faire ce voyage ludique qu'on fait toutes les semaines, le dimanche de 18h à 19h, nous avons aujourd'hui une invitée autour de la table pour parler d'un projet participatif. Nous accueillons Juliette.
Bonsoir.
Alors, on va détailler, hein, bien sûr, pendant toute l'émission, un peu ce projet. Pour faire simple, avant de détailler, c'est un projet qui va se passer sur Lille. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Dans le centre, même l'hypercentre de Lille.
Et c'est un projet qui est...
Aujourd'hui, qu'on saura l'adresse. C'est encore secret, apparemment.
Non, c'est secret, parce que j'aimerais bien faire un petit jeu pour que les gens trouvent l'adresse exacte, évidemment.
Alors, ça sera très lié au jeu de rôle, mais aussi à d'autres activités ludiques. Et c'est encore en cours sur Ulule, c'est bien ça ?
Donc, oui, il reste 7 jours, je crois.
Si vous écoutez l'émission, vous pouvez tout de suite déjà vous rendre sur le projet Ulule, qui s'appelle La Taverne. Virgule, baraque, à jeu de rôle. C'est bien ça, hein ?
Tout à fait.
Et on va faire comme d'habitude, Dominique. Je vois que tu me regardes, à moins que tu veux attaquer l'agenda.
Pas du tout.
Ici, on aime bien demander aux invités quel est un peu leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés à créer.
Elle est toute jeune, Juliette, ça va prendre 2 minutes. Comparé aux invités de la dernière fois.
On ne sait jamais, écoute.
On risque d'être étonné. Voilà.
Alors, comment est-ce que tu en es arrivé ? Alors, tu es peut-être fan de jeux de rôle
Oui, évidemment.
Alors, comment tout ça a commencé ? Tu peux repartir le plus loin
Comme il disait, je ne vais pas aller très très loin, j'ai que 23 ans, mais j'ai toujours aimé l'univers ludique. Et c'est pour ça que j'ai fait des études de jeux vidéo, donc à Pôle 3D, à Roubaix. Et après ma licence, du coup, j'ai été game narrative designer pendant un an, dans un petit studio de jeux qui était basé à Euratechnologie à Lille. Et là-bas, du coup, on a fait des jeux de piste, des immersive games, des escape games, en réalité augmentée. C'était très sympa, on a notamment fait un jeu... J'ai notamment fait un jeu Assassin's Creed aux Invalides à Paris. C'était vraiment très chouette. Et suite à ça, en fait, j'ai toujours aimé entreprendre. J'ai une autre activité entrepreneuriale qui s'appelle Airstick.fr, où on revend, et aucun rapport, hein, mais c'est des diffuseurs d'huile essentielle à inhaler. Et là, j'avais juste envie d'allier mes deux passions, donc le jeu et l'entrepreneuriat, et donc de créer la taverne. J'y pensais depuis un petit moment et je me suis dit que j'allais faire ça.
Alors, c'est vrai que c'est assez difficile en ce moment de se dire « Tiens, je vais ouvrir un bar ». Hein, c'est peut-être un des plus gros challenges à réaliser pendant cette période. Et est-ce que tu rencontres déjà des difficultés par rapport à ça ou...
Alors au final, je pensais que j'en rencontrerais plus que ça, mais ça s'est plutôt bien passé vu que la période un peu confinement a été passée et qu'on a vu les bars et restaurants réagir et s'adapter, surtout les bars ludiques. Donc ça va, on n'a pas eu trop de problèmes, c'est plus au niveau des investisseurs qui demandaient justement qu'on prenne bien en compte le Covid, tout ce qui était désinfecté, les distances de sécurité, moins de monde peut-être, fermer plus tôt, etc.
Il faudra désinfecter les dés entre chaque lancée de dés.
Peut-être pas entre chaque lancée de dés, si c'est le même joueur.
Non, ça va, chacun viendra avec ses dés et son crayon.
Alors, et si on te dit, tiens, quel est un des premiers jeux de rôle qui t'a fait démarrer l'aventure, ou un des premiers jeux vidéo, hein, parce qu'on peut commencer le jeu de rôle en jeu vidéo, tout comme en jeu de rôle papier autour d'une table, qu'est-ce que tu nous proposerais ?
En jeu vidéo, je ne sais pas du tout, ça remonterait à très loin, vu que je faisais des jeux vidéo éducatifs quand j'étais toute petite déjà.
À Dibou ?
Oui, à Dibou, barrer une valise, pousse. Mais sinon, en jeu de rôle, j'ai vraiment commencé sur Donjons et Dragons, mais juste avant Donjons et Dragons, j'avais fait un one-shot de Oni Heist, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit jeu très sympa qui se joue de manière très rapide et très facile, où en fait, les joueurs incarnent des ours qui doivent réaliser un braquage de miel. Voilà, donc c'est complètement délirant, mais c'est très
sympa. On y joue après l'émission, ça marche.
Et on y jouera peut-être dans le bar, hein, sûrement.
Oui, le bar.
On parlera tout à l'heure en détail des différents paliers, hein, puisque tout projet Ulule a droit à ses paliers. Et ici, la bonne nouvelle, alors si vous pouvez, hein, je le répète, contribuer dès maintenant au projet, et il est déjà financé, ça c'est la très bonne nouvelle.
Oui, il a été financé en une semaine.
C'est super, et on est à 249%, donc ça promet une belle aventure qui commence déjà comme ça.
Il reste encore des paliers. C'est le principe du participatif.
C'est vrai. Alors, avant de détailler, Dominique, toi, ce week-end, tu es parti à Amiens. On en avait déjà discuté.
On l'avait annoncé plusieurs fois, effectivement. Le festival À toi de jouer, qui se passait à Amiens ce week-end, donc samedi, dimanche. Et il n'est pas fini encore. Hein. Il finit en même temps que notre émission. Et c'est la première fois que j'y allais. Ça fait longtemps que je voulais y aller, parce que la particularité, c'est que ça se passe dans un espèce de centre d'exposition, enfin centre des congrès, où il y a plusieurs expositions en même temps. Et notamment un salon du chocolat et de la gourmandise.
Alors, où est-ce que tu as passé, où est-ce que tu as passé le plus de temps?
En fait, c'est assez surprenant, parce que quand tu entres dans l'espace, le parc d'exposition, le Mégacité à Amiens, avec la même entrée, tu peux aller dans tous les festivals, parce qu'il y a effectivement le salon du jeu dans certaines salles, et si tu changes de salle, tu vas te retrouver dans le salon de la gourmandise. Si tu passes dans la salle suivante ou dans le couloir, on va te faire une démonstration de coupe légumes, etc., comme dans tous les bonnes expositions, c'est génial. Et ensuite, tu arrives dans un endroit où on te propose de goûter tous les vins issus et les fromages de toutes les régions de France, ou de refaire l'isolation de ta maison. Et tu passes d'un espace à un autre comme ça, et c'est génial. Alors, t'es pas mélangé, hein. T'as pas une table de jeu qui est à côté d'une table de vin, non. Heureusement, là, ça serait dangereux, mais bon. Et c'est séparé en plusieurs espaces, et c'est assez intéressant parce que tu vois des gens qui sont venus pour telle ou telle exposition, ou qui avaient juste envie de passer une demi-journée, un week-end, et qui passent d'un espace à l'autre et qui découvrent. Alors, c'est pas mal pour notamment l'espace jeu, parce que tu peux faire découvrir des jeux ou la passion du jeu à des gens qui n'étaient pas forcément branchés là-dessus au départ.
Alors, tu es revenu avec une vingtaine de flyers.
Ouais, ça va. Oui, parce que je ne connaissais pas beaucoup la passion des gens de la région d'Amiens pour le jeu. Et en fait, il y a pas mal d'associations assez dynamiques, effectivement. Et on parlait de bar à jeux, et il y a justement un bar à jeux qui va s'ouvrir, qui s'appelle, dès que j'ai retrouvé le nom, c'est les Dés Raisonnables, qui va ouvrir en janvier sur Amiens. Donc on voit, c'est une ville où ça bouge pas mal au niveau ludique. Et j'ai pu faire rencontrer des gens qu'on rencontrait régulièrement. Il y avait notamment Tilt Games qui était là, Tilt Games, que j'avais déjà interviewé. Il était là avec la librairie des Quatre Chemins, qui était là pour vendre des jeux et puis faire des démonstrations. Donc c'était assez intéressant de revoir. J'ai pu voir également Cyril Blondel, un auteur de jeux du Nord qui est très connu, j'ai pu tester ses derniers jeux. Et je t'assure qu'à 10h du matin, quand tu arrives et qu'on te propose de faire un casse-tête, même si c'est un casse-tête qui est prévu pour les enfants, c'est pas facile.
Alors qu'ils n'ont même pas encore allumé la machine à café, c'est très problématique.
C'est pas facile du tout, mais on y arrive quand même. J'ai testé quelques jeux très sympas et j'ai discuté avec Cyril Blondel, et je pense qu'on va l'inviter dans l'émission un jour ou deux, parce que on aura pas mal de sujets à évoquer avec lui.
Vous le savez, si vous avez des projets comme ça, vous pouvez toujours nous contacter avec Heureusement en France, et passer un dimanche pour parler de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on accueille Juliette. Alors, même si c'est nous qui sommes venus te chercher, puisqu'on on entendait parler un peu partout de ce bar qui...
Oui, parce que même j'ai rencontré des gens au festival qui connaissaient le projet. Donc voilà. Notamment...
Même à Amiens, tu as déjà des contributeurs,
c'est pas très loin,
peut-être.
En plus, hein.
C'est vrai, le monde du jeu est un petit monde. Non, ça va quand même. C'est un réseau bien organisé. Et parmi les gens que j'ai rencontrés, la librairie Les Quatre Chemins avait invité un auteur de fantasy qui était venu présenter et dédicacer son livre qui vient de sortir en poche. J'en ai profité pour faire une petite interview rapide pour qu'il se présente. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, il s'appelle Rodolphe Van Oorde. Et tu peux peut-être passer le son que je t'ai mis.
Je m'appelle Rodolphe, je vais bientôt avoir 46 ans. Et je pense que je baigne depuis tout petit dans les univers de l'imaginaire. J'ai commencé à lire très tôt les univers de fantasy, et notamment Tolkien. Ils m'ont tout de suite fait voyager, les livres dont vous êtes le héros. Et très, très rapidement, j'ai fait du jeu de rôle avec mes amis du collège. Et ça a été un petit peu mes premiers pas vers une forme de création de toutes ces choses qui se bousculaient un peu dans ma tête. Et tous ces mondes-là m'ont accompagné toute ma vie. J'ai toujours pratiqué le jeu de rôle, j'ai toujours été élevé à la pop culture des années 80-90, j'en suis un pur produit. Un gros lecteur de fantasy principalement, un peu de SF, mais surtout de fantasy. Et j'ai découvert notamment donc l'univers de l'Anse du Chaos, qui à la base qui est pas du tout mon univers, qui est celui d'un auteur qui s'appelle Michel Robert, que j'ai rencontré dans un grand salon de la fantasy, à Trolls et Légendes, à Mons. Et je suis arrivé en fan avec mon livre à la main pour le faire dédicacer. J'ai échangé quelques mots avec l'auteur et puis on a sympathisé, on a parlé d'un projet d'adaptation de son univers en jeu de rôle. C'était pas du tout son trip, donc on a beaucoup échangé d'abord par mail, il m'a laissé son mail dans la dédicace qu'il m'a faite et on a commencé à échanger comme ça. Puis toutes ces années, ben aujourd'hui on est vraiment devenus très proches, hein, on est des copains. Et en discutant de son univers, à un moment dans son histoire, le personnage d'Estrée, que j'ai donc repris en main, disparaît de ses romans. Et en discutant, propose 2-3 idées, et il me lance la balle en disant « Si ça t'intéresse tant que ça, tu n'as qu'à l'écrire. » J'ai donc attrapé cette balle au bon, et je me suis lancé, un peu à l'aveuglette, mais avec beaucoup de passion. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir un style d'écriture qui est assez proche du sien, parce qu'on aime vraiment le même rythme dans l'écriture, les mêmes univers un peu noir dans la fantasy, assez proche de la saga de Moorcock ou de The Witcher. Je lui ai proposé mes 100 premières pages qu'il a lu et le verdict est tombé où il m'a dit termine ce roman et j'en parle à mon éditeur. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Fleuve avec l'héritière du chaos. L'héritière du chaos qui va donc présenter le personnage d'Estrée, qui suite à une histoire d'amour en fait qui se finit mal, va être totalement brisée, elle va s'enfuir au fin fond du monde. Et c'est à partir de là que moi je la reprends et que je lui propose cette destinée qui aujourd'hui sort en poche un an avant-première, qui devait sortir le 8 octobre, le tome 2 qui sort en mars 2021, pour proposer la suite des aventures qui commencent dans ce tome 1. Et j'espère par la suite des aventures dans des univers qui me seront propres, que je pourrai ensuite proposer à mes lecteurs.
On entend qu'il y avait quand même du monde autour.
Absolument. Et oui, désolé pour la qualité un petit peu du son. Et donc, j'ai discuté avec lui également de ses projets, puisque, donc, on avait compris, il a écrit un livre qui se base dans l'univers d'un autre écrivain français, Michel Robert. Et donc, vous savez ce qui vous arrive si vous allez dans un salon style Trolls et Légendes, c'est là qu'il est rencontré, et que vous dites à votre auteur préféré que vous aimeriez en savoir un peu plus sur ce qui se passe au personnage, et qu'il vous répond, t'as qu'à l'écrire. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Et donc, il l'explique, c'est comme ça qu'il est devenu écrivain pratiquement, donc c'est intéressant. Et il travaille également, oui.
De là à choper le mail de l'écrivain sur sa dédicace, il faut quand même le faire. Il faut être balèze.
Ah, il m'a pas mis son mail, parce que j'ai toujours parti avec le livre. Non, j'ai pas son mail.
Mais est-ce que c'est pas... contacter. T'as qu'à l'écrire, comme ça, moi, je toucherai les droits.
Ça va, c'est autre chose. Disons que l'auteur est occupé, parce que pour l'instant, il y a, je sais plus combien de volumes écrits, mais l'année, donc il a expliqué, l'année prochaine va sortir le 10e et dernier tome du cycle principal. Et donc, lui, il a repris un des personnages qu'il aimait bien. Il fait vivre des aventures à ce personnage. Donc, c'est intéressant. Et peut-être bientôt en jeu de rôle, exactement. On parlait de jeu de rôle. Ah. Oui, parce que, bah oui, l'auteur, là, Rodolphe, est passionné de jeu de rôle et grand joueur. Donc, il a insisté pour lancer cette idée de jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle s'appelle La Lange du Chaos. Et pour l'instant, il s'en pour parler avec un éditeur. Je lui ai demandé si lui aussi, éventuellement, comme pas mal de jeux de rôle, voulait, s'il avait envisagé de passer par l'étape KS, enfin Kickstarter, ou Ulule, hein, bien sûr. Mais c'est trop chronophage, c'est pas son métier, c'est vraiment un métier à part, hein, Ulule. Alors, Kickstarter, on pourra en parler avec Juliette. Donc, ça devrait sortir fin 2021, sans doute. Et il y a beaucoup de fans qui attendent, parce qu'il y a une bonne communauté autour de cet univers. Et donc, il y a pas mal de joueurs, notamment dans les lecteurs, et qui attendent la suite, quoi. Parce que lui-même, il a développé, avec l'aide aussi de l'auteur, le background. Parce que l'auteur lui-même, Michel Robert, n'avait pas forcément développé toute l'histoire, etc. Il avait créé un univers, mais sans forcément aller dans les détails. Donc là, Rodolphe, il a écrit 1000 ans de background, par exemple. Il connaît mieux l'univers que l'auteur originel lui-même, pratiquement. Donc il est parfaitement placé. Et on peut considérer que pour les fans, ça va être génial, ce jeu de rôle. Ça va presque être une encyclopédie, pratiquement, sur l'univers, quoi.
Il a la chance de reprendre une série avec un auteur qui est encore vivant. Enfin, l'auteur principal, exactement, est toujours là.
Oui, ça arrive régulièrement qu'il y ait des auteurs qui décèdent avant la fin de l'aventure. Et donc, c'est d'autres auteurs qui doivent reprendre le flambeau, on va dire.
J'allais encore parler de Dune, mais avec les séquelles, je sens que tu vas râler. Donc... d'autres projets sur Amiens, d'autres découvertes éventuellement.
Alors, si vous connaissez à Amiens quelqu'un qui aurait une salle, parce qu'il y a, une association de jeux qui s'appelle le Cercle des Immortels. En ce moment, ils sont en train de chercher une salle pour leurs activités. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un dans la région d'Amiens qui a une salle, ça peut être intéressant.
Très bien.
Sinon, le service, comment dire, de sécurité, je suis entré dans le Grand Palais, il y avait la sécurité avait des sabres laser. Il y avait toute une séquence Star Wars qui était là, donc la sécurité était bien, bien organisée.
Mais c'est pas bête, ça, tiens, d'avoir un service sécurité un peu cosplay, ouais.
Ouais, ils se font dans la masse. Ouais.
Ah, mais il y avait tout. Il y avait du cosplay, tu pouvais te faire lire les lignes de la main. Enfin, c'était impressionnant comme expérience. Vivement l'année prochaine que j'y retourne.
Ouais, peut-être qu'ils rajouteront un quatrième salon, le salon du mariage, du chocolat.
De la bière, parce qu'il y avait.
C'est ça qui manquait.
Au niveau de la bière, il n'y avait pas grand-chose. La seule choix. Alors, je n'ai pas le droit de citer de marque, mais ça commence par le même nom qu'une marque de ketchup.
D'accord.
Si vous voyez la bière, n'ose pas. Donc,
c'était pas de la limonade, quoi.
Ouais.
Aromatisé au houblon.
Voilà.
Très bien connu.
Donc, il y a des tas de belles rencontres. Très sympa.
Ça donne envie. Alors,
Ça fait plaisir en ce moment d'avoir des festivals qui n'organisent parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'allais pouvoir y aller. Quoi. Mm-hmm. Donc, voilà.
Je propose à quelqu'un de présenter le morceau de musique qui va passer et le contexte de pourquoi est-ce qu'on passe ça le temps que je traficote la console derrière moi. Reynald.
Tout à fait. Alors, juste avant d'arriver pour l'émission, on s'est retrouvés tous ensemble pour discuter, préparer
faire
l'émission.
Une réunion de préparation
Une réunion de préparation un peu houblonnée de l'émission. Et voilà. Et on s'est retrouvés donc à l'Hirondelle à Lille, qui est un très bon bar, excellente bière.
Un bar éphémère, mais qui est là en permanence.
Voilà. Et en ce moment, en plus, il y avait des disquaires. Alors,
exactement.
Je sais plus
je
le nom.
Je crois que c'est tous les mois. C'est le Vinyl Market.
Vinyl Market.
C'est tous les mois, mais ils font régulièrement des opérations comme ça. Donc. Voilà.
Et au moment où on était en pleine discussion, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va passer comme musique, etc. Et à ce moment-là, moi, je reviens avec des vinyles et je vois François et Dom qui me regardent. Avec un grand sourire, je fais, bon, ok, c'est parti.
On c'est pensait ça. Que tu allais nous ramener un truc original, peut-être du Rick Astley ou un artiste inconnu, mais non, tu as voulu quelque chose que tu pouvais afficher dans ta maison.
Bah non, j'ai pris des trucs pour moi.
Bah oui, non, tu as bien fait.
Je vais pas m'emmerder avec des trucs nuls, quoi. Mais là, non. Donc là, j'ai pris un petit vinyle, un petit 45 tours d'Aaron Maiden, qui est quand même mon groupe fétiche. C'est avec ce groupe-là que j'ai appris la musique, les instruments de musique et compagnie. Et là, c'est Run to the Hills de l'album Number of the Beast de 1982. We fought him hard, we fought him well.
une petite dédicace à l'émission Chrysanthème. Et oui, maintenant on passe des vinyles, on n'a plus peur de rien.
Petit grésillement sympathique à la fin.
C'est ça, oui. Et on en aura un deuxième tout à l'heure. Voilà, sans spoiler. On accueille aujourd'hui Juliette qui a lancé son projet participatif qui a extrêmement bien démarré. Un projet ludique, c'est pour ça qu'on est très attentif à ce projet que tu lances. Ici, on parle d'un bar à jeux de rôle, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous détailler un peu le projet ? Puisqu'on en a parlé rapidement au début d'émission, et là, on peut attaquer le gros du dossier.
Alors, c'est une baraque à jeux de rôle. On a voulu utiliser le terme baraque pour appeler le côté convivial lillois.
Mais il ne faut pas s'attendre à avoir des frites.
Non, on n'aura pas de cuisine malheureusement, mais on aura des planches, saucissons, tartinables, etc.
Puis à côté, il y a une friterie, c'est ça ?
Il y a Meunier qui n'est pas très loin.
Ah, on essaie de grappiller sur l'adresse.
Tout doucement.
Après, c'était un piège.
C'est pas trop un indice en Meunier, dans le centre de l'île. Non, alors du coup, c'est un bar à jeux qui sera spécialisé en jeux de rôle et qui proposera également des jeux de société. Donc on aimerait vraiment axer à fond sur le jeu de rôle et on aura également deux salles immersives privatisées qui seront entièrement modulables au niveau sonore et au niveau lumineux, donc pour que le MJ, principalement pour le jeu de rôle, ait en contrôle et puisse vraiment immerger les joueurs dans l'univers.
Ah, on pourra faire varier les couleurs.
Oui, c'est ça, l'intensité.
Quand tu es en plein combat, tu mets une petite lumière rouge pour que les joueurs soient un petit peu...
Mais tu montes le son, puis après, dès que tu arrives dans la taverne, tu mets un bruit de fond, donc tu baisses le son en fonction de l'intensité que tu veux mettre dans ton scénario. Ouais.
Ou tu veux être méchant, tu mets une couleur rose, bleu, calme, ils sont en train de se promener dans la forêt, puis tout à coup, boum, ils sont attaqués, ils s'y attendaient pas.
C'est ça l'idée.
Puis là, t'as des petits sprays qui te jettent de l'eau, pour simuler
avec la fumée et tout.
Peut-être pas jusque-là.
Tu ressors, t'es en lambeau et tout, c'est j'ai meilleure partie du drôle que j'ai jamais fait.
Je vais à l'hôpital maintenant, je reviens.
Salut.
Alors, dans ce bar à la base, c'est une grande salle commune, hein, comme on peut voir à Lille sur d'autres, où on pourra éventuellement jouer à des jeux de société.
C'est ça, ou même à des jeux de rôle, même si ce sera moins adapté que les salles privatisées. Donc à la base, ça reste salle commune. L'accès sera 3 € par personne pour rester un temps illimité. Et sinon, on a bien évidemment les salles immersives privatisées dont on parlait juste avant.
Au niveau des boissons, on aura... Il y a déjà des idées des...
Oui, bière, vin, cidre. Pas de cocktail, mais bière, vin, cidre, c'est déjà pas mal.
Oui, avec modération, bien sûr.
Avec ça, on peut faire déjà des cocktails. Hein.
Ce qui marche très bien en ce moment, c'est les planches apéro. Je pense que c'est également sur le menu.
Oui, planches, saucissons, tartinables.
Pendant les parties de jeux de rôle ou de jeux de société, il faut faire attention. Mais bon.
Oui.
Est-ce qu'on aura une boutique sur laquelle on pourra acheter éventuellement des jeux?
Oui, on aura une boutique dans le bar, justement, et aussi en ligne. Spécialisée, encore une fois, en jeux de rôle, mais avec aussi des jeux de société.
Alors, puisque je suis en train de défiler la page du Hull, hein, d'ailleurs je vous invite tout de suite, hein, puisqu'il est encore temps de participer à ce projet, il vous reste 7 jours pour avoir des contreparties, hein, ce qui est le grand but du Hull. Vous participez avant tout le monde et vous avez des petits bonus. Alors, je sais qu'il y a une soirée d'inauguration,
oui.
Est-ce qu'il y a encore des places ?
Je suis désolée.
Est-ce qu'on peut pas en faire une deuxième ?
J'y ai pensé. Franchement, j'y pense de plus en plus. Et en fonction du nombre de personnes qui seront intéressées, c'est possible qu'on fasse 2 soirées d'inauguration, si ça fait du sens.
Pourquoi pas ?
Tout fait sens. par les temps qui courent. Tout fait sens.
Dit comme ça.
Il y a la soirée d'inauguration et la soirée secrète.
Ah, parce qu'on n'a pas l'adresse, mais est-ce que voilà, la date précise, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut déjà donner une fourchette pour l'ouverture ?
Alors, on pense en début 2021, cet hiver. Je préfère pas trop m'avancer, oui, vu qu'on a encore les travaux à faire et que, vu la situation actuelle, on est sûr de rien. Donc...
Il y a une question que tu poses toi-même sur la page Ulule et que je me suis posée tout de suite aussi, mais effectivement, il y a déjà des bars à jeux à Lille. Peut-être pas à jeux de rôle, même si dans certains, on peut pratiquer le jeu de rôle, ça se fait spécial. Est-ce que, du coup, ça permet aussi d'étudier la concurrence, de voir comment ils tournent et comment ils fonctionnent. Et donc, vous avez senti un manque à ce niveau-là ?
Oui, moi, vu que je vis à Lille et que j'adore les jeux, je suis très cliente déjà des autres bars. Et c'est vrai qu'ils sont souvent remplis déjà, donc c'est difficile d'y entrer. Et en plus, ils ne proposent pas vraiment de jeux de rôle. Des fois, il y a des événements jeux de rôle, mais on ne peut pas y aller un soir quand on en a envie pour jouer. C'est plus vraiment ponctuel.
C'est ça, nous, de temps en temps, entre nous, on va dans un café, on sort des petits jeux de plateau, etc. Donc même s'il y a de la musique pas trop forte à côté ou des gens qui parlent, on peut faire des jeux de rôle. C'est quand même une pratique qui demande un petit peu plus de calme, on va dire, pour l'immersion.
Oui, c'est ça. Et puis dans notre baraquage, on aimerait bien mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour jouer.
Ça, c'est important. Oui. Ah, est-ce qu'il y aura aussi... Oui, les gens vont venir, j'imagine, avec leur propre jeu de rôle, mais il y en aura peut-être aussi à disposition. Et donc, j'imagine aussi des gens qui viendront, qui ne connaîtront pas le jeu de rôle. Si j'arrive et je dis, je ne sais pas ce que c'est un jeu de rôle, qu'est-ce que tu vas me proposer?
Alors
Une bière, déjà.
Alors déjà, tu prends une planche à apéro, si ça
va durer. La bière, je connais.
Tu prends une bière et une planche, et après, on va discuter.
Et ben justement, on a déjà pas mal de personnes qui nous ont contactés pour être MJ, enfin, maître du jeu, du coup, à la taverne. Et du coup, proposer des parties à d'autres joueurs, de personnes, que ce soit des initiations ou des personnes qui veulent juste découvrir.
Parce que je vois tout à fait l'exemple de gens, d'étudiants qui... Il y en a beaucoup d'étudiants qui viennent à Lille des autres régions, qui ne connaissent pas forcément quelqu'un, à part leur voisin de chambre, mais ils ne pratiquent pas. Et ils se retrouvent éventuellement tout seuls. Peut-être qu'ils pratiquent le jeu de rôle dans leur ville d'origine et ils ont envie de rencontrer des gens ici. Et voilà, si on n'a pas de réseau déjà sur les réseaux sociaux dans la région, c'est pas facile. Et un point comme ça, c'est peut-être
sympa. L'idée, c'est vraiment d'être un lieu de convivialité, d'échange et de partage autour du jeu de rôle.
Tu peux avoir un effet de masse justement sur les, comme tu dis, les étudiants qui arrivent justement là sur une nouvelle ville et qui font un effet de masse avec les nouveaux étudiants qui disent « bah moi je connais pas la ville, toi tu connais le jeu de rôle, tu vas y aller là, je viens avec toi parce que je veux sociabiliser, je veux avoir quelque chose, je veux avoir des potes, des amis et justement découvrir le jeu de rôle en même temps ».
Alors, il y aura des événements, c'est ça? Il n'y aura pas que du jeu de rôle? Est-ce qu'on pourra de temps en temps faire par exemple de la peinture de figurines? Est-ce que tu vas t'associer avec des associations? D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un appel aux associations?
Oui, j'ai déjà commencé à en contacter pas mal, mais j'aimerais bien mettre en place des partenariats avec les associations, que ce soit des réductions spéciales pour leurs membres, des choses comme ça. Et oui, beaucoup d'ateliers, on pensait même à aller jusqu'à fabriquer des dés, créer des scénarios, créer un personnage, peut-être des ateliers de théâtre, etc.
Alors sachant qu'il y aura, alors c'est pas un escape game, c'est plutôt un inside game, pour rentrer dans le bar, vous aurez peut-être un grand jeu, mais ça peut être sympathique de s'associer avec les associations qui ont du mal des fois à trouver des endroits, comme tu le disais à Amiens par exemple, c'est pas facile de trouver des...
C'est pas évident, oui, les associations, on pense toujours que c'est facile à lancer, mais le local, c'est super important, surtout que dans pas mal de villes, les locaux sont partagés avec d'autres associations. Il n'y a pas eu des associations de jeux de rôle, font pas des sessions tous les jours de la semaine. Ça peut être, en général, souvent c'est le vendredi soir, c'est pour décompresser de la semaine, de temps en temps le mercredi ou le dimanche après-midi, mais le reste du temps, tu vas monopoliser une salle dans une commune, surtout les petites communes, qui c'est pas important, donc c'est partagé. Et avec le confinement en ce moment, enfin le Covid, les locaux qui sont partagés par plusieurs associations, je le vois dans mon association, c'est à moi, on est obligé de désinfecter en arrivant, désinfecter en partant, on est limité en nombre de membres, etc. Ça complique pas mal de choses. Donc un local, quand une association a un local, c'est un trésor. Et ils font super attention à bien le gérer. Donc là, ça sera ouvert tous les jours, le bar. C'est l'avantage. Enfin,
du mercredi au dimanche. Au début, en tout cas, au début.
Oui, après, il y aura possibilité de privatiser, j'ai vu.
Oui.
Donc ça pourrait être n'importe quoi.
Alors, vous êtes combien pour le moment?
Un et demi.
Un et demi, parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans le studio.
Bien fait. Non, mais principalement... presque toute seule sur le projet, et Rémi, du coup, qui est mon associé, qui est à l'extérieur du studio, lui s'occupe du développement du site internet de la taverne.
Tu ne fais pas les travaux tout seul?
Non, pour les travaux, on va passer on va externaliser de toute façon, parce qu'il faut créer un bar, il faut créer des salles, donc c'est un peu au-delà de nos capacités.
Après, ce qui est le plus important, là, ça sera la déco aussi. Hein. Oui. Il faut mettre les joueurs dans l'ambiance. C'est vrai qu'il y a certains bars qui ont investi beaucoup là-dedans. Ça peut être un challenge aussi de bien décorer tout ça. Alors, ça va être quoi? Un style taverne? Ça va être un style contemporain?
Alors, un peu des deux, parce qu'on aimerait bien forcément rappeler l'ambiance taverne. C'est comme ça qu'on s'appelle. Et on sait qu'en jeu de rôle, le plus connu, ça reste le médiéval fantastique.
Le nombre de parties de jeu de rôle où on commence, première fois, vous êtes dans une taverne.
C'est
classique.
Ça.
Après, on n'est pas dans une prison d'habitude.
Non, ça c'est dans les jeux vidéo.
Après, la taverne, tu peux la mettre. Est-ce que tu ferais pas une taverne science-fiction comme la taverne de Star Wars, qui est hyper iconique aussi, quoi.
On n'a pas envie non plus d'être dans un cliché médiéval fantastique. On aimerait bien rester l'idée de la taverne à la croisée des chemins, à la croisée des mondes.
Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur le financement participatif. Le choix de passer par un financement participatif, c'est... pour avoir du financement vraiment, ou il y a aussi l'aspect communication pour se faire connaître ?
C'était pour les deux, mais plus quand même pour l'aspect communication. Enfin, au début, parce qu'on ne savait pas que notre Ulule allait exploser comme ça et qu'on allait grimper autant les paliers. Mais à la base, c'était vraiment pour se faire connaître.
Ok. Et donc, avec les bonus, les paliers bonus, c'est pour améliorer, on va dire, le service.
Oui, c'est ça. Bah, déjà, on l'a beaucoup amélioré. Pour les salles immersives, on n'était pas sûr de pouvoir proposer la modulation au niveau de tout ce qui est ambiance sonore et lumineuse. Et maintenant qu'on a passé le palier, on peut.
Et il y a un dernier palier, c'est ça, qui n'a pas encore été atteint.
Le dragon n'a pas été vaincu encore. On a vaincu le Beholder, mais pas le dragon encore.
Donc, aidez-nous, hein. Aidez Juliette pour passer ce palier, hein, avec la taverne baraque à jeux de rôle. C'est facile, vous cherchez sur YouTube, enfin sur Ulule. Ouh là là.
La vidéo est aussi sur YouTube, ça va.
Ça, parfait.
Ça, c'est un passage presque obligé, effectivement. Site internet, ça, oui, c'est évident. Mais Facebook, Twitter, c'est pour ce genre d'activité, maintenant, c'est super important de communiquer là-dessus.
Alors, j'ai vu dans ce palier à 15 000 euros, on a du matériel de streamer. Ça veut dire qu'on pourra éventuellement faire une partie avec ses amis et la diffuser sur Twitch.
C'est ça.
Mais c'est génial.
C'est le meilleur palier.
Bah, je crois qu'on va se revoir, du coup.
Ah, est-ce qu'on peut faire une partie où tu as un joueur qui est dans la taverne, un autre dans un autre café-jeu à Toulouse, etc. Ah, ça va être... on l'a fait, nous, ça, des parties en ligne, c'est sympa. Surtout, en ce moment, il y en a beaucoup qui font. Bah, mais...
Parce que tu as des solutions. Hein. Nous, on avait travaillé ce format de faire ça en ligne avec des plateformes telles que Roll20, par exemple, qui te permettaient chacun d'avoir une petite case avec ta vidéo. Mais nous, ce qu'on a toujours voulu faire, par exemple, c'est de se réunir autour d'une table et d'avoir un matériel qui soit filme ta table de jeu, hein, qui filme les participants, le maître de jeu. Et alors, c'est toujours difficile à mettre en place. Ça demande beaucoup d'investissement. Il faut que t'aies... Alors là, tu pourras louer sans vraiment investir des milliers d'euros et voir si ça fonctionne avec tes amis et de faire un premier stream. Et si ça fonctionne, bah, tu peux revenir la semaine suivante ou autre.
Je vais mettre un petit bémol, moi, sur le fait que ça demande beaucoup d'investissement. Alors, le matériel, tu peux commencer à faire un podcast ou même des vidéos avec... J'ai presque ton téléphone pour commencer. Tu n'as pas forcément besoin d'investir beaucoup, quoi. Beaucoup d'ordinateurs ont des webcams de très bonne qualité. Les sons des téléphones s'améliorent beaucoup. Il faut des fois brancher un petit micro. Il y a des logiciels gratuits qui permettent de faire du montage. Tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de... Ça prend du temps, en tout cas au départ.
Les caméras, généralement, tu prends les caméras qui sont situées sur les appareils photo numériques. Et ça te fait beaucoup moins cher qu'une caméra lambda. Après, le fait, c'est que tu sois aussi, toi, quand tu iras dans cette salle, tu sois un peu formé aussi à la diffusion, l'enregistrement, le traitement de l'image. N'importe qui ne peut pas venir dans cette salle, faire sa partie de jeu de rôle et dire j'appuie une fois pour enregistrer et une fois pour diffuser. Tu auras forcément un process à mettre en place
oui,
et à expliquer.
C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Voilà.
C'est pour ça que c'est le dernier palier.
Oui.
Mais c'est important de s'affranchir du côté technique et de savoir à quel moment, pour ne pas avoir par exemple une seule personne qui gère la technique, parce que quand on joue au jeu de rôle, on aime bien oublier ce qui se passe autour et ne pas devoir dépendre du matériel, passer son temps à vérifier le volume, si c'est bon ou pas. Quoi.
Le maître de jeu a tellement de choses à gérer entre ses joueurs chiants, son scénario qu'il n'a pas le temps de préparer.
Le scénario, il s'invente en même temps que les joueurs font leurs conneries et puis c'est bon. Quoi.
Oui, parce qu'il n'y a jamais un seul joueur qui suit le scénario. Enfin, en tout cas, dans nos parties à nous, hein, Dominique a légèrement tendance à partir de côté. Voilà.
Ben justement, à propos de jeux de rôle, pour faire une petite coupure, j'aimerais bien dire un petit mot. Alors, est-ce qu'on passe de la musique maintenant ou pas ?
On peut, hein, écoute, si
après,
quelqu'un...
Après, on parlera d'une autre manifestation qui s'est déroulée ce week-end aussi, le festival Octogone, qui normalement a lieu à Lyon tous les ans en vrai. Les gens se réunissent du monde entier, je ne sais pas, en tout cas de toute la France à Lyon pour jouer aux jeux de rôle, discuter, montrer leurs projets, etc. Mais Covid oblige, ils n'ont pas pu le faire. Donc, comme beaucoup d'autres festivals, il y a eu l'Octogone Digital ce week-end. C'est d'ailleurs toujours en cours. On en parlera un petit peu après la pause musicale.
Très bien. Et la pause musicale proposée par
DJ
Reynald.
C'est Zuber. Donc le premier morceau que j'avais proposé, c'était le vinyle de Rants of Sage de Iron Maiden, le vinyle qui était pour la tournée de 1982, la tournée française, et j'ai trouvé le vinyle d'un autre groupe iconique anglais.
Est-ce qu'il ne serait pas originaire de Glasgow ?
Il y a de fortes chances. Bah, et là je parle de AC/DC, Et rien qu'avec la cloche,
on
vous comprenez.
On entend le son de la cloche.
Hell's Bells, qui date quand même de 1980.
Le petit craquotement vinyle, c'est beau. We'll be right back. Waouh, un peu d'ACDC qui cracote.
Qui cracote.
Alors, c'était quand même un vinyle spécial, c'est ça que tu nous expliquais hors antenne?
Non, c'était juste que j'avais pris les deux vinyles en fonction du fait que ce soit des vinyles de tournée. L'ACDC, la tournée française de 1980-81. Pour Iron Maiden, c'était la tournée française de 1982. C'était juste ça, mais...
C'est la cover qui change.
Bah, c'est surtout que tu as les dates dessus.
Ça me fait penser au Hellfest et justement au Salon des Mérites dans les livres qui étaient... Il y avait un livre, j'ai vu qu'il y avait un livre de science-fiction, et il y avait un livre qui avait le prix Hellfest. Donc il y a un prix Hellfest pour la littérature, c'est pas mal.
Ah, ça serait pas mal d'en lire un ou deux, tu vois. Absolument.
Donc pour revenir, je citais Octogone, la convention lyonnaise... qui se déroule normalement en
il
vrai.
T'as perturbé, hein.
Pas du tout. Je ne suis pas perturbé par ce qui se passe hors du studio. Donc cette année, c'était Octogone, l'Octogone virtuel, l'Octogone digital. Donc il y avait des conférences, des discussions, mais aussi des parties de jeux de rôle tout le week-end sur Discord, sur Twitch, sur YouTube, etc. Donc il suffit d'aller sur le site octogone avec un s.org et vous retrouverez très facilement le lien et le lien vers leur... Là, je ne vais pas les citer parce que c'est trop long, vers les pages Twitch, YouTube, etc. On peut retrouver, il y avait par exemple ce matin, cet après-midi, une conférence, justement, on en parlait tout à l'heure, sur le casual gaming, le casual play. C'est-à-dire les gens qui font des parties de jeux de rôle, soit sur YouTube ou sur Twitch en direct ou en enregistré simplement, ou même sur des télés, parce que maintenant sur JVTV, il y a des parties de jeux de rôle. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Parfois même de façon professionnelle avec des gens qui engagent des comédiens pour venir jouer. C'est pas juste entre potes. Et donc, c'était super intéressant parce que les intervenants détaillaient le matériel qu'il faut. Faut pas forcément beaucoup investir. Le temps que ça prend. Là, par contre, il faut du temps. Les joueurs. Et en fait, ils expliquaient que ce qui prenait le plus de c'est pas forcément faire le montage ou écrire un scénario ou faire la partie elle-même. En général, c'est des sessions de 3 heures. Mais ce qui prend plus de temps, c'est de faire l'emploi du temps des joueurs pour réussir à ce que tout le monde soit au même endroit disponible pendant 3 heures.
Et éviter.
Et c'est super dur.
Éviter Benjamin qui a un empêchement la veille.
Mais c'est pour ça qu'avec un bar, une taverne à jeux de rôle, c'est pratique. Hop, tu sais où te donner rendez-vous et tu sais quand y aller. Et tu sais qu'il y aura de la place.
Alors, on parle de bar, taverne, jeu de rôle. Hein, on va remettre une petite couche sur ce projet Ulule qui est en cours et qui nous intéresse parce que c'est vrai que c'est un investissement de commencer le jeu de rôle. Alors, tout à l'heure, on parlait des scènes qu'on peut streamer, etc. Mais vous allez fournir également des livres. Les livres pour commencer, quoi, le livre des règles, le bestiaire, etc.
C'est ça, on aura tout vraiment dans la taverne, tout pour jouer au jeu de rôle, que ce soit le matériel, comme tu disais, les livres, mais également des dés, les accessoires aussi qui sont pas forcément nécessaires mais optionnels, comme les pistes à dés, les tours à dés, etc.
Quand on commence à jouer avec les pistes à dés, les tours à dés, etc., on a son petit confort. C'est difficile après de revenir au train. Les figurines, par contre, ça, c'est un autre problème. On en parle régulièrement avec des invités surtout de la peinture. Les figurines, c'est spécial. Quand t'as ta figurine, c'est difficile d'emprunter la figurine d'un autre ou un simple bout de papier ou un pion.
Je suis sûr qu'on a fait 8 jeux de rôle différents avec les mêmes figurines des requests.
Ah bah, oui, c'est ça. Ça, c'est le plaisir.
Grâce au dernier palier là, qu'on a vaincu, on pense investir dans, je ne sais pas si vous connaissez... Dwarven Forge ou Warlock Tiles, qui sont vraiment des cartes en 3D dans lesquelles vraiment les figurines ne sont plus les seules à être en 3D sur la map.
Il existe des sites internet, alors si on a la chance d'avoir, même si maintenant c'est de plus en plus abordable, une imprimante 3D à la maison ou un pote qui a une imprimante 3D, on fait son personnage avec un petit logiciel 3D, mais il y a des sites qui proposent ça, tu vas sur le site et tu crées ton personnage et tu rajoutes un bras, une arme, une tenue, etc., même les couleurs, et on t'envoie ton imprimante, ta figurine imprimée en résine.
Et en parlant de cartes et de 3D, tu penses mettre en place aussi des cartes de réalité augmentée?
De réalité augmentée,
justement pour pouvoir éviter d'avoir trop de stockage de décors, de 3D et autres, et juste pouvoir proposer des cartes, et puis après, avec juste l'écran, d'avoir le décor qui se met en place.
Mais on n'y a pas trop pensé, mais c'est une très bonne idée.
C'est vrai que... Alors,
des fois, je suis pas con. Hein.
C'est un budget, mais c'est vrai que... Des espèces de tablettes, à la barre, au lieu d'avoir une table, tu as une tablette géante, et tu peux faire effectivement apparaître le plan que tu veux, l'image que tu veux.
Mais là, c'est pas le même prix, c'est pas le même budget d'investissement,
Mais ça, par contre, si t'en as une, ça, ça peut attirer du monde. Ça peut être sympa au moins de venir essayer.
Ouais.
Alors, on passe depuis tout à l'heure des musiques de taverne. Est-ce qu'il y aura des musiques de taverne dans la taverne de Maracage?
Oui, un peu, il y aura une petite musique d'ambiance, bien sûr.
Alors, est-ce qu'on peut détailler rapidement un peu les paliers? Est-ce que tu les connais par cœur?
Non. Non, je sais que le tout premier, c'était... Je vais regarder sur mon téléphone merci. En même temps. Le tout premier, c'était les gobelins. C'était vraiment la taverne peut ouvrir, donc génial. Ouh. Ensuite, on a eu les squelettes, où là, c'était du matériel de jeu. Donc, comme on disait, plus de livres, de dés, de figurines, de cartes aussi, des cartes de sort, des costumes.
J'ai trouvé ça très sympa, le fait que vous animiez la campagne, bon, même si elle allait très, très vite.
Oui, j'ai pas eu le temps de suivre.
À la façon d'une partie de jeu de rôle, quoi. Effectivement, on pouvait suivre, comme on peut suivre dans une aventure, l'aventure d'une équipe de joueurs, etc., et les rencontres. C'est vrai qu'en général, on rencontre des gobelins, puis des squelettes.
Et si on regarde bien les contreparties, vous allez pouvoir être présent un peu dans la taverne à long terme, à savoir que si vous participez à partir de 10 euros, vous allez pouvoir écrire votre nom ou votre pseudo. Votre fameux pseudo que vous seul utilisez dans les jeux de rôle va pouvoir être inscrit sur le mur.
Heureusement qu'on a un grand mur.
Être un personnage dans une partie de jeu de rôle.
Est-ce qu'on a le droit de demander d'être spécifiquement dans les toilettes ou autre? Non.
Non, ce sera le même mur pour tout le monde, je pense.
Mais ensuite, donc, et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important lorsque vous faites du projet participatif, vous allez avoir des petits bonus que les autres n'auront pas. Vous, si vous participez à 25 euros, vous allez avoir des boissons offertes lors de votre première visite et même un encas, par exemple. Et jusqu'où est-ce qu'on va dans ces contreparties?
Alors, la plus haute contrepartie que je me souviens bien, je crois que c'est une soirée privatisée, et celle juste avant, c'est carrément une table gravée à son nom, il me semble.
C'est pas mal.
Sachant que...
Ça vous tente pas, les gars?
On dit qu'à partir de 10 euros, on peut mettre le nom ou le pseudo, mais ensuite, en fonction des paliers, on débloque un peu des titres plus spéciaux.
Une table heureusement en France, moi, je
sais pas. C'est tentant.
Faut participer, les mecs.
Je me retourne, on n'a même pas encore d'étiquette à notre nom dans les casiers de Radio Campus, hein, déjà.
Vous n'avez pas encore participé?
Mais non, on veut le faire le dernier jour. Nous, on veut péter, on veut un palier à 20 000.
Mais le palier à 20 000 pourrait être la création du jeu de rôle de la taverne où tu démarres dans la taverne elle-même. La
je pense que ce serait plus que 20 000, mais oui.
Tu ne vas pas me rajouter des règles à écrire, non, mais tu ne vas pas me faire chier.
Et alors, on parle de ce projet Ulule. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés à créer un projet de la sorte. Quelles sont un peu les difficultés que toi t'as rencontrées? Comment est-ce qu'on crée un projet Ulule concrètement?
On pourrait avoir l'impression qu'il suffit de créer un compte sur le site, de dire, hop, je lance mon projet, je mets un nom bidon, je mets un chiffre et c'est parti.
J'ai besoin d'une nouvelle salle de bain, c'est parti.
Alors pour Kickstarter, je peux pas trop parler vu que j'ai juste utilisé Ulule là pour la taverne, mais l'accompagnement sur Ulule était vraiment top. Du début à la fin, en fait, on a une personne, un conseiller qui nous est attitré et qui revoit le projet, qui nous donne des conseils dès le début, même encore maintenant. Donc, mon conseil principal qu'on me donne toujours, c'est rajouter des news parce que je n'en ai publié qu'une, mais c'est allé tellement vite. Mais on est vraiment bien accompagné et je trouve que Ulule, c'était assez facile à prendre en main.
Et tu parles d'accompagnement, j'ai vu aussi sur la page que tu étais suivi par le BGEO de France.
Oui.
Et ça, c'est super important, je les connais, j'ai déjà rencontré des conseillers, c'est des gens qui sont très actifs, qui principalement, qui se tournent pas que vers les changements d'emploi, mais les gens qui veulent créer des entreprises ou qui ont déjà créé des entreprises et qui ont eu des difficultés. Ils ont été très actifs, là je tire vraiment, leur tire un coup de chapeau pendant le Covid, puisqu'ils faisaient des conférences, par exemple tous les mercredis, en vidéo, avec des créateurs d'emplois qui étaient confinés chez eux, etc., et qui n'avaient plus d'activité. Et ils ont donné des tas de conseils. Et d'ailleurs, si vous habitez dans la région de Lille, ils ont un bus... Oui, on va dire un bus qui tourne dans pas mal de villes. Et faut regarder si dans votre commune, il y a le bus BGE qui passe et qui donne des conseils à tous les créateurs d'entreprises dans chaque commune de la Mel, pratiquement. C'est super important. Si vous avez un projet que vous ne savez pas par où commencer, les BGE Hauts de France, c'est vraiment un bon point de départ.
Oui, ils sont géniaux.
Est-ce que à terme, alors ça c'est une question qui sort complètement du thème,
ça y est.
Je suis désolé, mais est-ce qu'à terme on n'aura pas tous notre petite entreprise? Est-ce que c'est pas le futur ça?
Il y a pas mal de gens qui aimeraient que ça soit comme ça. Parce que quand tu as des employés qui sont en CDI, etc., c'est compliqué de les virer. Tandis que quand tu as que des fournisseurs...
Tu peux te virer toi-même assez facilement.
Quand tu as que des fournisseurs qui sont auto-entrepreneurs ou je ne sais quoi, bah, du jour au lendemain, ou même d'une heure sur l'autre, tu peux lui dire, bah, écoute, on ne travaille plus ensemble et voilà.
Tu peux voir déjà, ne serait-ce que la fonction publique arrête de prendre des agents titulaires et passe par l'externalisation avec des intérimaires, vacataires, stagiaires, pour des postes de titulaires.
Je crois que j'ai lancé un sujet qui durait une émission. Donc voilà, on va le noter pour une prochaine émission. Hein, je le note. Est-ce que toi, quand tu as créé ce projet Ulule, il y avait ce côté j'ai envie d'être le propre responsable de d'un projet et non pas être accompagné de 10 personnes dont 8 ne feraient pas.
Tout de suite.
Pardon, je parlais de la fonction publique tout d'un coup.
Carrément, c'est comme je disais en début d'émission, moi j'ai toujours aimé entreprendre, ça m'a toujours intéressé et j'avais vraiment envie d'entreprendre dans le domaine du jeu. Je pensais pas au tout début, je pensais pas créer vraiment un bar à jeux parce que même moi j'ai relu mes notes ce matin et j'avais vu, je pensais plutôt partir sur un blog et une boutique de jeux et j'avais noté « oh un bar c'est trop compliqué » et finalement...
Finalement ça se lance.
Finalement.
Et après le lancement et le succès et les premiers mois, l'année de succès justement, est-ce que tu penses aussi... J'ai des gens, créer des emplois, etc. Tu as déjà pensé à ces parties-là
Oui, tout à fait. On a pensé un peu à l'évolution de la taverne. Rien que déjà pour le démarrage, je vais devoir recruter une personne à temps plein et une personne à mi-temps, je pense. J'ai déjà eu plein de personnes qui m'ont contacté pour travailler dans la taverne. Oui, c'est ça. J'ai pas encore lancé de processus de recrutement parce qu'on n'est pas encore ouvert. On ouvrira seulement en début 2021, donc c'est un peu tôt. Mais oui, et on compte bien évoluer et pouvoir ouvrir plus longtemps, pouvoir ouvrir plus de jours. Pouvoir proposer plus d'activités, etc.
Alors, on a droit à un très beau camembert sur ta page Ulule, avec à savoir que Ulule prend en moyenne 8% des frais engagés par les contributeurs.
C'est bon, pour les gens qui seraient intéressés, effectivement.
Ça compte après les transactions bancaires, enfin les frais déjà appliqués. 8%, c'est tout compris, mais ça reste élevé.
Et toi, tu vas investir 40% du budget, voire un peu plus, sur les jeux, puisque c'est vraiment la base de ce bar, hein, c'est le jeu de rôle. Donc, est-ce que tu as déjà des idées de jeux de rôle qui seront présents comme ça dans le bar ?
Ben, on aimerait bien avoir un peu de tout, les basiques forcément, mais aussi des jeux qui viennent de sortir, les derniers qui sont sur Ulule, Kickstarter, des jeux un peu plus indépendants. Et aussi, on comprend dans jeu tout ce qui est matériel de jeu.
Et on pourra voir ces jeux de rôle disponibles sur le site web, par exemple.
C'est ça.
Et on pourra commander avant.
Il y aura une carte de jeu.
Ce qui pourrait être très sympa aussi, c'est rencontrer... Il y a pas mal d'auteurs de jeux de rôle qui se déplacent sur tous les festivals.
Oui, dans les événements, on y a pensé.
Et faire dédicacer son jeu de rôle dans un bar avec le créateur du jeu, là, ça c'est génial. Ça, c'est quelque chose qui
même marche. Conférence avec des game designers ou des créateurs de jeux, on aimerait vraiment mettre ça en place.
Il y a 20%, et ça c'est très important, puisque j'ai vu des projets Ulule se faire démonter, parce qu'on disait, ben voilà, vous avez eu 1 million d'euros, et vous avez fait un jeu qui n'est pas terrible, et en fait, les contreparties, vous devez les construire, elles font partie du budget que vous allez allouer à vos dépenses. Donc il y a 20% qui seront pour les cadeaux. Donc si vous participez, vous pouvez avoir des cadeaux, c'est très important. Il y a les accessoires, la déco, la communication, bien sûr.
Super important.
Et il y a, après, de ton côté, je suppose qu'il y a un investissement personnel. Alors, est-ce qu'on peut le dire maintenant ? Est-ce que si on tape le 15 000 ce soir ou demain, est-ce qu'on rajoute un palier ?
Bah, du coup, oui, il faudrait continuer l'aventure parce que là, du coup, les paliers, c'est vraiment la quête de la taverne, comme si tous les contributeurs étaient joueurs dans l'univers. Et pour l'instant, du coup, ils sont en quête de cette taverne. Et on avait mis le dragon un peu en dernier parce que moi, ça me paraissait déjà tellement loin, 15 000. Notre objectif initial, il est à 4 000, donc...
Mais ce succès, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une demande forte et qu'il n'y a personne qui propose actuellement quelque chose comme ça, de privatiser un endroit pour faire du jeu de rôle avec l'équipement. Enfin, voilà, j'arrive, les mains dans les poches, et je vais faire une partie avec mes amis. Alors, est-ce qu'on connaît un peu la tarification qui sera faite ? Est-ce que tu as déjà une petite idée ?
Pour l'accès à la salle commune, du coup, avec la ludothèque, tout le matériel de jeu, les accessoires de jeu, ce sera 3 euros par personne pour un temps illimité, ce qui est un peu ce qui se fait dans les bars ludiques plus classiques. Et pour les salles privatisées, évidemment, c'est un petit peu plus cher. En moyenne, on est, je crois, à 4 euros par personne et par heure, sachant que plus on est nombreux et plus on reste longtemps, plus le tarif est dégressif.
C'est super. Hein, je pense qu'on ira. Hein. On attend. Mais on va participer déjà pour être sûr d'avoir
nos places. On va avoir une table heureusement en France.
On le rappelle, la taverne Baraque à jeu de rôle. On te remercie Juliette de nous avoir accompagnés pour cette émission.
Merci bon à vous.
On va se quitter.
On parlait d'argent, là, voilà. Ça tombe bien. Transition.
D'argent pour rien.
D'argent. Un petit dernier vinyle, Money de Pink Floyd de l'album Dark Sides of the Moon. C'est.
Je fais un signe du genre meuble parce que le vinyle n'est pas encore lancé
du
tout.
Ah bravo.
Ah voilà. Alors les deux premiers vinyles, tu me coupes la parole et celui-là, faut.
Le DJ est encore en formation.
Voilà. DJ
donc,
Marcel.
Les gnous ne sont pas. Ils sont encore en vacances. Ouais. J'espère qu'on les verra à partir de la semaine prochaine. Et les programmes continuent sur Radio Campus.
Voilà, c'était la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, hein, pour une nouvelle émission de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien.
Bien, à plus.
Il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.